Bénédicte Henri Réval, Le Piferaro. En l'an 1870, le ministre de la municipalité romaine venait d'ouvrir le carnaval en se promenant processionnellement, suivant un ancien usage, à travers le Corso et les rues adjacentes. Les balcons des palais, les fenêtres des maisons tendues de draperies aux mille couleurs, étaient occupés par une foule élégamment parée, tandis que la rue était sillonnée de toutes parts de calèches découvertes aux attelages ornés de plumets, de fleurs et de grelots retentissants. Des flots de peuple envahissaient la chaussée et les trottoirs. Les voitures s'arrêtaient et la circulation sur le Corso était devenue difficile. Çà et là, au milieu des chevaux, se faufilait la foule masquée. Le combat à coups de confetti venait de commencer. C'était une vraie fusillade, très inoffensive du reste, entre les balcons, les voitures, les masques et les promeneurs. Les confettis sont de petits bonbons de plâtre ou de farine dont chaque promeneur est abondamment pourvu. On les jette par poignées, par corbeilles, et bientôt sur tout le Corso s'élève un nuage blanc qui recouvre en tombant les habits et les costumes des spectateurs et des acteurs. Tout ce que touche les confettis est enfariné, moucheté et Rome entière retentit les bruyants éclats de rire d'un peuple de meuniers. Tout à coup, au milieu d'un groupe, un cri terrible s'éleva. « Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Ils m'ont volé mon enfant !» En même temps, une femme affolée de douleur se dressa sur les coussins d'une voiture arrêtée sur le Corso. Elle avait rejeté le masque qui cachait son visage et le domino rose qui la recouvrait et désignait à la foule qui l'entourait une troupe masquée qui se frayait un passage au milieu des chevaux et des véhicules et qui disparut bientôt à la faveur du tumulte et du mouvement. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre sur le Corso. Les rires et les chants cessèrent comme par enchantement, et l'on n'entendit plus rien que les cris de la mère infortunée qui sanglotait et redemandait son enfant. Ce désespoir touchait les indifférents même, et tout Rome apprit bientôt que la comtesse de Castelmonte avait vu son fils unique ravi sous ses yeux par une bande de malfaiteurs. La jeune comtesse appartenait à l'une des plus anciennes familles de la capitale de l'Italie. Mariée fort jeune au comte de Castelmonte, le type le plus accompli de l'aristocratie romaine, elle était restée veuve après quelques années de mariage et avait reporté sur son enfant toute l'affection qu'elle éprouvait pour celui qui n'était plus. La police romaine était sur pied. Elle avait visité, exploré un à un tous ces mille réduits, bouges et cloaques qui fourmillent dans la grande ville, mais les recherches avaient été infructueuses. Pendant 2 ans, la comtesse de Castelmonte, accompagnée d'un serviteur fidèle, parcourut successivement toutes les grandes villes de l'Europe, donnant partout le signalement de Pedro, et offrant sa fortune entière qui lui rendrait son fils bien-aimé. Toutes nos gazettes et celles des pays voisins prêtèrent leur publicité à cette aventure extraordinaire et firent retentir l'Europe des cris de douleur de cette mère éplorée. Mais tout fut inutile, et la malheureuse comtesse revint à Rome, la mort dans l'âme. Elle n'avait plus d'enfant. Le chagrin minait cette belle âme qui s'abandonnait tout entière à sa douleur et qui demanda à la religion les consolations que le monde était impuissant à lui donner. Sa vie se passait à accomplir des actes de charité. Il n'était pas une misère à Rome qu'elle ne soulageât, pas un appel de malheureux qu'elle n'entendît. Aussi l'avait-on nommée la Madre dell'Infelici. C'est ainsi que la comtesse de Castelmonte priait Dieu pour son fils. Cette année, à l'ouverture du salon, il y avait foule dans les salles du palais de l'industrie où sont exposées chaque année les œuvres de nos meilleurs artistes. Parmi les tableaux qui s'y trouvent réunis, les curieux s'arrêtaient avec une prédiction marquée devant une toile due au pinceau de M. V. L., un de nos artistes les plus aimés. C'est cette toile que reproduit notre gravure. Elle représente un Piferaro aux grands yeux noirs, à la physionomie ouverte, à la mine souriante et éveillée. Les larges boucles de cheveux noirs qui s'échappent de tous côtés et encadrent merveilleusement cette délicieuse figure. On ne se lasse pas de contempler cette tête expressive, et l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, ou de la beauté du modèle, ou de l'art que le peintre a déployé dans l'interprétation du sujet. Les éloges les plus mérités ont été prodigués à M. V.L. par les critiques les plus éminents de la presse de Paris. Parmi les nouveaux arrivants, une femme toute vêtue de noir s'était approchée du groupe de curieux et leva tristement les yeux sur le tableau. Tout à coup, elle pâlit, chancela et tomba évanouie sur le parquet en poussant un cri à peine contenu. On s'empressa autour d'elle, on lui prodigua les soins d'usage, et quand il eut repris connaissance, la belle inconnue montra à tous ceux qui se trouvaient près d'elle le jeune Piferaro de V.L., qui était, disait-elle, son fils chéri, son Pedro bien-aimé qu'on lui avait volé il y a 8 ans sur le Corso, un jour de carnaval et qu'elle croyait à jamais perdu. 1 heure après cette scène qui avait vivement ému tous ceux qui en avaient été témoins, la comtesse de Castelmonte se présentait chez le peintre, auteur du tableau, et après lui avoir raconté son histoire en quelques mots, lui demandait en suppliant l'adresse de son jeune modèle. Malheureusement, comme cela arrive à Paris, le petit Piferaro était un de ces modèles de rencontre qui s'était présenté un matin chez lui avec d'autres Italiens. Le sujet lui avait plu et il avait demandé au chef de la bande de le lui amener dans son atelier, ce à quoi celui-ci avait consenti avec quelques difficultés. Tout ce que le peintre V.L. savait, c'est que l'enfant s'appelait Ludovico, mais il ignorait son adresse et depuis 1 an, on ne l'avait plus revu dans le quartier Breda. Avec les renseignements très bornés que lui avait donné l'artiste, la comtesse alla demander une audience à M. Gigot, notre préfet de police. Elle lui fut aussitôt accordée. Ce magistrat mit à sa disposition un agent très habile avec lequel elle entra aussitôt en campagne. Notre policier s'en alla dans le quartier Mouffetard, fouiller tous ces bouges hideux où grouille la population des Piferari. Dans la rue des Boulangers, il amena un certain matin la comtesse, qui trouva entassée pêle-mêle 12 de Piferari, qui préludaient par leur concert discordant aux accords abominables qu'ils exhibaient le soir dans les brasseries et les cafés de la capitale. Tous, rangés en cercle, le violon renversé, suivaient de l'œil les mouvements du maître et s'étudiaient à reproduire les airs que celui-ci leur notait. La comtesse n'eut pas besoin d'un long examen pour découvrir Pedro au milieu de ses petits virtuoses du pavé, tout sale et déguenillé. Elle alla droit à lui, le prit dans ses bras et le tint longtemps embrassé, tandis que le policier procédait à l'arrestation du misérable logeur.